Pendant que nous sommes toujours debout ce matin, je vais nous amener à lire la parole de Dieu dans Genèse. Genèse chapitre 41. Le verset 37 à 40.
Genèse 41.
Verset 37 à 40. La Bible dit ce qui suit.
Amen.
Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un autre homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, et il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen.
Amen.
Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde ce matin de partager la parole en ces jours merveilleux, les jours de Pentecôte, les jours où le Saint-Esprit est venu habiter avec en nous. Il a accepté de faire le ministère avec nous. Les jours de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que la Bible nous parle dans Joël que Dieu avait promis d'envoyer son esprit sur toute chair. Et il a dit qu'il y aurait ces gens qui vont avoir les songes. Il y aurait des gens qui vont avoir la vision. Et Israël pendant longtemps attendait cette promesse. Parce qu'ils ne savaient pas par quelle façon ça va arriver. Mais vous et moi, nous ne sommes pas en train d'attendre la promesse. Parce que nous vivons dans la promesse. Et aujourd'hui, nous commémorons ces jours où Dieu a réalisé sa promesse. Alléluia.
Amen.
C'est pour cela que nous sommes dans la joie aujourd'hui. Vraiment, celui qui se fâche aujourd'hui, il faut qu'on les regarde bien. Et celui qui a peur encore aujourd'hui, les regarde bien. Parce que même les disciples qui se cachaient en ces jours, la peur était partie. Parce que l'Esprit de Dieu, il est celui qui nous donne l'énergie spirituelle. J'ai dit aussi merci à Dieu pour tout le corps pastoral qui est représenté par notre papa et maman Esther. Qui nous donne toujours cette confiance de partager la parole de Dieu. On m'a reproché que souvent je ne parlais pas de ma femme. Elle, je lui disais le matin, ma chérie, merci beaucoup pour la prière. Elle prie beaucoup pour que je sois capable de parler ici devant. Parce qu'elle sait que je suis souvent timide quand je suis seul. Nous disons aussi merci à toute l'assemblée de nous donner, de nous prêter l'oreille chaque dimanche. Alors, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de continuer de clôturer l'enseignement que nous avons eu toute la semaine. Pendant la semaine, on parlait d'un thème, quand l'Esprit de l'Éternel te saisira. Quand l'Esprit de l'Éternel te saisira. Et notre passage de base était tiré dans 1 Samuel chapitre 10. Le verset 6 où le prophète Samuel est en train de parler à Saül. Il est en train d'annoncer à Saül les bonnes choses, les meilleures choses qui sont en train de venir dans la seconde phase de sa vie. Parce que jusque là Saül s'est occupé des brebis de son père. Mais Dieu était en train de lui préparer à s'occuper des brebis de Dieu. Dieu le préparait à une phase nationale. Et lorsque Samuel lui parle, il lui annonce d'abord la bonne nouvelle. Mais la deuxième des choses qu'il lui fait, il lui dit, il faut faire attention. Ne passe pas si vite jusqu'à ce que le Saint-Esprit te saisira. Et il lui a dit, lorsque l'Esprit de Dieu te saisira, il y a certaines choses que nous avons vues pendant la semaine qui devraient se passer. Alors aujourd'hui, je vais faire juste un récap pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Alors, par définition, le verbe saisir veut tout simplement dire prendre une chose de manière à pouvoir la tenir, la porter et ne pas la laisser échapper. C'est-à-dire tenir ça de manière forte et ne pas laisser cette chose aller. Donc lorsque nous parlons du Saint-Esprit, il nous saisira. C'est-à-dire l'Esprit vient à nous. Il nous tient de manière à ne jamais nous laisser échapper. Alléluia.
Amen.
Dans la définition de saisir, j'ai trouvé deux autres verbes intéressants. Il y a d'abord le verbe tenir. Tenir n'est pas juste une question de toucher. Tenir, c'est garder fermement dans la main. C'est-à-dire, j'engage mon énergie. J'engage ma force pour garder cela. Donc c'est lorsque nous parlons que le Saint-Esprit te saisira, ou lorsque Samuel est en train de dire à Saül que l'Esprit de Dieu te saisira, c'est que l'Esprit va te tenir de manière à ne pas l'échapper. Et il va te tenir de manière à rester avec toi.
Amen.
Un autre verbe que j'ai retrouvé dedans, c'est le verbe porter.
Kubeba.
Le verbe porter veut tout simplement dire soutenir quelque chose ou quelqu'un.
Kuchukua, ama kusitiliza.
Les soutenir.
Nikusema kuitekemeza.
Raison pour laquelle lorsque Jésus parle du Saint-Esprit,
ndio maana Yesu anasema kuhusu
Roho. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Il sera avec vous. Il va désormais habiter en nous. Et l'autre fois, nous avons dit pendant la semaine que lorsque l'Esprit de Dieu entre en nous, en fait, il ne sort plus. Il ne sort plus. On peut attrister le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est inactif en nous. Et il reste avec nous. Sans pour autant faire le travail qu'il est venu faire. Et vous allez voir aujourd'hui, pendant que je vais parler de quand l'Esprit de Dieu te saisira, ce sont les indicateurs qu'il faut regarder. Est-ce que l'Esprit est actif en moi? Parce que si l'Esprit est actif dans ma vie, il y a des choses que je dois voir dans ma vie. Et si je ne les vois pas, même si je parle en langue, même si je saute, même si je prophétise, mais si je ne vois pas ces choses, parce que ce sont des choses qui sont visibles à l'œil nu, alors je dirais que l'Esprit est en moi, mais il est fort probable qu'il est inactif. Alléluia. Dans les passages que nous avons choisis aujourd'hui, il s'agit d'un homme bien que nous aimons beaucoup. C'est le fils de Jacob. Il s'appelle Joseph. Vous savez, Jacob, lorsqu'il est parti épouser, il a l'intention d'avoir une seule. La pensée polygame n'existait pas dans la pensée de Jacob. Mais c'est son beau-père qui l'a dipé. La Bible nous dit que lorsqu'il est parti, il voulait prendre Rachel. Mais son beau-père lui donne sa grande sœur Léa. Encore dans la justice de Dieu, la Bible nous dit que Dieu rendit Léa fertile. Et Rachel ne donnait pas d'enfant. Cela était l'un des points des problèmes dans ces foyers-là. Plus fois vous allez voir Rachel revenir vers son mari pour lui dire: donne-moi un fils, si je te prie. Et Jacob disait: suis-je devenu un dieu? Rachel a essayé de donner ses servantes pour avoir les enfants avec Jacob. Mais dans l'amour de Dieu, en fin de compte, Dieu lui donne un fils. Et ce premier fils de Rachel, c'est ce garçon ici, Jacob. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est ce garçon Joseph. Vous comprendrez pourquoi est-ce que Jacob aimait Joseph. Parce que c'était un fils demandé. Si c'était dans notre génération, là, il l'appelait exaucé. Alléluia.
Amen.
Et la Bible nous dit, à cause des grâces qui étaient sur Joseph, ses grands frères l'ont vendu. Et quand il arrive en Égypte, il est accueilli par Potiphar. Encore là, il y a encore un autre problème. Et on les jette en prison. Alléluia. Et c'est là que notre histoire commence. Joseph dans la prison, il garde son cœur et son sens d'honneur. C'est-à-dire, même dans la prison, il traitait les dignitaires avec dignité. La Bible nous dit qu'on l'a mis dans la prison où on mettait les serviteurs des pharaons. Et là, il rencontre deux personnes. Les deux personnes reçoivent les songes. Et Joseph traduit ses songes. J'aime bien un détail que Joseph est en train de faire ici. C'est que lorsque ces gens voulaient partir, il leur dit une chose: quand vous serez auprès de Pharaon, souvenez-vous de moi. Je vous ai servi. Quand vous serez devant Pharaon, dites que je suis ici. Mais le chapitre 41 commence par dire 2 ans après. Dit au bout de 2 ans. C'est-à-dire, ces gens sont partis et Joseph est resté dans la prison 2 ans. Et personne ne parlait de lui. Et personne ne pouvait encore s'imaginer de Joseph. Jusqu'à ce qu'il se pose un problème dans le palais royal. Il y a un rêve qui arrive. Et Pharaon appelle ses experts. Il appelle les scientifiques, les grands professeurs de l'Égypte. Il appelle les magiciens. Il appelle les astrologues. Ils appellent les politologues. Je suis sûr qu'il a appelé tous les logues qui étaient à l'Égypte à l'époque là. et il leur parle de ce qu'il a eu. Et la Bible nous dit personne parmi eux ne s'est retrouvé. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu rappelle encore ces gens en disant dans la prison, il y a un jeune homme de 30 ans. À l'époque, quand ils étaient avec lui, il n'avait que 28 ans. Mais avec son âge de 28 ans, il nous a parlé des choses que même les gens avec cheveux blancs ne nous ont pas dit. Et ici, Pharaon dit, appelez-moi ce jeune homme. Et quand il arrive, il donne la solution. C'est là que la Bible nous dit que cette parole plut à tout le monde. Parce que non seulement Joseph avait interprété, mais il a aussi donné la solution à cette interprétation. Et cette parole a convaincu tout le monde. Jusqu'à ce que Pharaon dit, je dirige le monde, je connais les gens, mais je ne connais pas quelqu'un qui soit comme celui-ci. Je ne connais pas quelqu'un qui soit aussi intelligent et sage comme celui-ci. Et il dit, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup étudié, mais parce qu'il a l'Esprit de Dieu.
Oh.
Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu te saisira, il y a quatre choses qui vont se manifester. La première des choses, l'Esprit de Dieu te donnera un nouveau cœur. On a parlé de ça pendant la semaine. Et je vais encore brosser ça aujourd'hui avant de... La deuxième des choses, l'Esprit de Dieu te donnera une nouvelle compréhension. Une nouvelle compréhension de la vie. Une nouvelle compréhension des phénomènes de la vie que nous menons ici sur terre. Troisième chose, quand l'Esprit de Dieu vient à nous, il nous donne du contenu. Il nous donne du contenu. Et je vais expliquer tout ça. Et enfin, quand l'Esprit de Dieu est en nous, il finit toujours par nous donner la couronne. Toujours finit par donner la couronne. La première action que l'Esprit de Dieu pose à nous, il nous donne un nouveau cœur. Dans 1 Samuel chapitre 10 verset 9, la Bible nous dit ceci. Dès que Saül, il tournait les dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent dans sa vie. Saül va faire des grandes expériences avec l'Esprit de Dieu. Très bientôt, il va prophétiser avec le fils des prophètes. Mais avant que ces choses n'arrivent dans sa vie, Dieu commence par lui donner un nouveau cœur. Et pendant la semaine, on a dit ceci. Dieu ne peut jamais accomplir ses promesses à nous aussi longtemps que notre cœur n'est pas encore renouvelé. Parce que Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans des outres anciens. Donc il faut d'abord commencer par remplacer les outres pour y mettre du vin nouveau. Dieu ne peut pas faire habiter son esprit dans un cœur qui a encore plein d'amertume, plein de péchés, avec de ce monde. C'est pour cela que Paul est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. J'ai beaucoup aimé la même chose dans la version Semeur. Semeur dit ceci. Saül quitta Samuel. Et lorsqu'il se tourna pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation. En autre terme, lui donna un autre cœur, c'est une opération de transformation. On a donné la vie à Jésus, mais on n'a pas laissé au Saint-Esprit de faire ce travail de transformation. La question que je voulais poser à l'Assemblée maintenant. Es-tu transformé? Lorsque tu regardes ta vie d'hier et tu regardes ta vie d'aujourd'hui, quelle est ta réponse par rapport à cette question? Es-tu transformé? Pour les amis qui sont venus se faire baptiser aujourd'hui, j'ai parlé avec les pasteurs. J'ai dit au pasteur, mais j'ai comme l'impression que ce sont des gamins, ce sont des petits-enfants. Ils ont quel âge? Je n'ai pas voulu connaître les âges parce que vous savez, les âges, ça dépend aussi de milliers. Hein? Un enfant qui grandit bien et un enfant qui connaît les agitations, ils n'ont pas la même croissance. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que le pasteur m'a dit, il m'a dit, pasteur, ce n'est pas facile d'avoir un enfant dit quand qui dit qu'il veut donner sa vie au Seigneur. C'est-à-dire, pour le faire, c'est-à-dire, il a compris. Alors, le conseil que je vais vous donner, les amis, il faut que les avant aujourd'hui soient différents d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsqu'on laisse sa vie dans la conduite du Saint-Esprit, nous voyons les changements de cœur. Un nouveau cœur, nous avons dit que c'est un cœur qui aime Dieu et aime les affaires de Dieu. David aimait Dieu et aimait les affaires de Dieu. C'est pour cela que Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Lorsqu'il prend le pouvoir, la première des choses à faire, c'était de chercher où se trouve l'arche de l'Éternel. Lui-même, il est en train de dire, ça fait longtemps qu'on était avec Saül, personne ne s'était parlé de l'arche de l'Éternel. Les choses de Dieu étaient une priorité pour David. Deuxième des choses, on a dit que le cœur de Dieu, ou encore un nouveau cœur, c'est un cœur qui a un sens d'honneur. Nous avons lu pendant la semaine comment David, quand il a appris que Saül était mort, premièrement David a tué la personne qui a tué Saül. Deuxièmement, il appelle son équipe pour réfléchir comment on va entrer cet homme avec honneur. Mais David, Saül, c'est ton ennemi. Bien aimé, être ennemi ne peut pas tuer ton sens d'honneur. Parce que le sens d'honneur, c'est quelque chose qu'on a dans son cœur. Alléluia. Troisième chose que nous avons dit par rapport au cœur de David. C'était un cœur humble. David est resté humble jusqu'à sa mort. Humble jusqu'à sa mort. Mikal a essayé de lui faire réfléchir comment un roi vit. Elle a commencé à lui dire, mais David, tu te ridiculises comme ça qu'un roi vit. Si l'Éternel allait lui dire, est-ce que tu as fait le cours de bonne manière ou pas? Tu es quel type de roi devant les gens, tu te ridiculises comme ça.
Mais
David a regardé ce qu'il était. Il regardait d'où est-ce que le Seigneur l'a tiré. Un homme sans manière. Grand roi descendre pour aller le chercher. Et David a dit, écoutez, je ne suis pas encore descendu jusqu'à montrer à ces grands rois-là que je suis humble. Il dit, je vais encore descendre davantage. Parce que si je le fais, je ne le fais pas devant un homme. Je le fais devant celui qui est le très élevé. Alléluia. Et quatrième chose que nous avons dit par rapport au cœur de David, c'était un cœur repentant. David savait se repentir. Repentir et répondir. Alors, deuxième chose. La première chose, c'était juste les récaps. Pour les gens qui n'étaient pas là, voilà de quoi on a parlé toute la semaine. Alors, deuxième des choses que Dieu a dans nos vies, lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est qu'il change notre compréhension des choses. Il nous donne une autre manière. Prends les choses. Imaginez-vous un jeune homme de 30 ans. Il n'a jamais été dans une université d'Égypte. Le seul maître qu'il avait, c'était son père. Imaginez-vous un jeune homme de 30 ans. Il n'a jamais conduit une nation. Il n'a jamais conduit une entreprise. La seule expérience qu'il a, c'est qu'il a eu à conduire les gens chez Potiphar. Il a conduit aussi les prisonniers. Mais il arrive devant le roi et il trouve des choses dans sa tête. Au point que lorsque le roi les regarde en disant, où trouverions-nous une autre personne comme celle-ci? C'est une prophétie que Esaïe a donnée. Et cette prophétie, c'est la prophétie pour l'église. Il est en train de dire ceci. Il arrivera dans l'avenir que les montagnes de la maison de l'Éternel seront fondées au sommet des montagnes. Elles s'élèveront au-dessus des collines. Et toutes les nations s'y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison des dieux de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Alléluia. La pensée de Dieu pour l'église dans cette génération, c'est que l'esprit d'ingéniosité entre dans l'église. L'esprit de Dieu ne vient pas dans nos vies juste pour parler en langue. L'esprit de Dieu ne vient pas à nous juste pour que nous puissions nous présenter comme des hommes saints. Et c'est pour cela que j'aime cette église. J'aime cette église parce que notre Père ne nous enseigne pas la pensée temps plein à l'église. Parce que ça sera faux de vous enseigner comment rester saint dans un monde humanitaire si moi-même je ne suis pas dans le monde humanitaire. Ça sera faux d'enseigner aux gens qu'on peut être saint dans la politique si tu n'es pas dans la politique. Parce que c'est comme si je vous enseigne les choses, les défis que je ne connais pas comment ça se passe. Dieu dans sa pensée, lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est pour que nous soyons actifs dans la société. C'est pour que nous puissions imposer Dieu dans la société. Et que partout où nous serons, que nous voyons les gens venir en foule derrière nous pour dire comment toi tu as fait, tu t'es en sortie parmi les occultistes.
Comme ça.
Vous savez, Joseph, il est en train de grandir dans quel contexte? Pharaon n'était pas entouré par les hommes chrétiens. Pharaon était entouré par les magiciens, par les astrologues. Lui-même, c'est un homme occultiste. C'est comme ça qu'on l'appelle, les occultes. On l'appelait lui-même toute une divinité. Lui, Pharaon. Mais malgré tout ça, il y a un homme avec l'Esprit de Dieu parmi eux. Laisse-moi vous dire une chose, bien-aimé. Vous qui fouillez les bureaux parce qu'on vous dit qu'il y a un occultiste, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Si l'Esprit de Dieu est en toi, les mêmes occultistes vont reconnaître qu'il y a un esprit supérieur ici. Parce que les hommes spirituels doivent vivre parmi eux. Comment est-ce qu'ils connaîtront que nous avons un Dieu? Comment est-ce qu'ils connaîtront que nous avons la sagesse de Dieu? Si on se cache derrière nos rabbins et les Bosata. Il est très important de parler en langue. Mais d'aller aussi parler en langage des humains de l'autre
côté.
Parce que la compréhension que nous avons des choses de ce monde, ce n'est pas comme le monde le comprend. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Sorry. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. Il dit, et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit de Dieu. Serons-nous des réunions? Mais lorsque nous parlons, les gens trouvent que ce que nous disons, ce n'est pas la sagesse humaine. Ce n'est pas la sagesse humaine. Mais nous parlons par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu qui sonde de la profondeur, il connaît ce que le monde ne connaît pas. L'apôtre Paul dit, c'est par l'Esprit que nous parlons des mystères. Les mystères sont des choses que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. L'apôtre Paul dit même que pour les hommes animaux, ce que nous disons, c'est la folie. Comment est-ce que les gens peuvent venir, ils s'assoient, les hommes avec des barbes, cheveux blancs, vous vous asseyez pour écouter des jeunes hommes qui sont en train de crier là devant vous? Parce que pour eux, c'est la folie. Mais vous savez que c'est que le monde appelle folie que nous faisons ici, ça consolide le foyer que la sagesse humaine ne pouvait pas résoudre. Lorsque vous êtes parti chez les Shanghai, chez les Tatés, chez les autres, ils ont dû séparer vous. Mais par cette sagesse ici, vous vous sentez encore que vous pouvez vivre ensemble. Parce que ce que nous disons n'a pas un soubassement de la sagesse humaine. Nous parlons des mystères de Dieu qui nous sont communiqués par le Saint-Esprit. La troisième des choses, le Saint-Esprit nous donne du contenu. Genèse chapitre
41-38.
Le roi dit, cet homme est rempli de l'Esprit. Ça, c'est la version parole vivante. Il dit, cet homme est rempli du Saint-Esprit de Dieu. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. À notre terme, lorsque Joseph s'est présenté, le roi ne l'a pas trouvé vide. Il a trouvé qu'à l'intérieur de lui, il y avait un contenu. Et il dit, ce contenu-là, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce pourrons-nous trouver un autre homme comme celui-ci? Est-ce que nous pouvons trouver plusieurs personnes qui ont du contenu du Saint-Esprit comme celui-ci? Paul l'a dit aussi dans Galates chapitre 2 verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ me donne un contenu désormais. Je ne suis pas vide. Voilà ce que j'ai contenu. La première des choses, c'est que la valeur
ni samani
n'est pas par rapport au contenant mais au contenu.
Samani yako si kulingana na zenye lakini kulingana na mchao.
Je vais prendre un exemple.
Tout à fait, un fayombi.
Je prends une bouteille, hein, on les appelle les bouteilles de parfum, le truc là de parfum. Bouteille de parfum, ça c'est dit?
Chupa ya malasi.
Ok, merci. Il y a les bouteilles de parfum.
Kuna chupa ya malasi.
Vous allez trouver à cette taille comme ça.
Utaona ingine ni ndogo kabisa.
Qui coûte $200.
Na inakuwa na samani ya dola 200.
Mais vous allez chez cacher Chine. Une autre bouteille est comme ça. On vous dit $5. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est l'injustice. Comment ça, ça peut être $200? Et ça, c'est $5. La réponse est simple. C'est que ce n'est pas le contenant qui donne la valeur. C'est le contenu qui donne la valeur. C'est ce qui est derrière qui te donne de la valeur. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas d'être gros ou d'être petit. Le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu arrive, il te bat le contenu. Et lorsque Pharaon a regardé ce contenu, il dit, je ne peux pas trouver ce contenu ici. Je peux voir les diplômes, mais pas ce contenu ici. Je peux avoir les incantations, mais pas ce contenu ici. Ce qui fait la différence, c'est le contenu que Dieu a déposé. Et c'est pourquoi je prie que l'Esprit de Dieu donne du contenu à cette église. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous donne du contenu. Deuxième vérité que j'ai compris du contenu, c'est que le contenu, ou alors le poids, n'est pas un résultat du contenant. Mais le poids, c'est le résultat du contenu. Je vais donner aussi un exemple. Vous pouvez prendre un sac plein comme ça, des bouteilles en plastique.
Vous
voyez? Les bouteilles en plastique. Et vous prenez un sachet noir. Vous mettez du sable ou les bijumba. Bon, prenons les bijumba. Mais vous allez voir si vous mettez sur sur le poids la pèse. Vous allez voir ces petits trucs. Pèse plus que ces gros sacs. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive? Parce que le poids ne dépend pas de ce que le contenant est. Mais le poids vient de ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. C'est là que la Bible est en train de nous dire ceci. Bien aimé, vous ne connaissez pas le poids de la gloire qui est en vous. En fait, lorsque l'ennemi vient, il essaye de secouer la famille. Mais parce que tu es là à l'intérieur, il n'arrive pas à secouer parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui paie. Il a un contenu du Saint-Esprit et ce contenu lui donne du poids. Alléluia. J'ai toujours horreur des personnes qui essayent de me secouer. Tu vas te casser les dos. Parce qu'en me regardant, tu vas voir, bon, c'est un garçon mince. Ah, mais il pèse à l'intérieur. Parce que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Et parce que Christ vit, je vis aussi. Nous sommes devenus les gens qui pèsent. Alléluia. Imaginez-vous un jeune homme de 30 ans qui se présente devant Pharaon. Il donne d'abord l'interprétation. Et puis il finit en disant ceci. Pharaon, il faut faire attention. Il faut bien m'écouter. Je ne sais pas l'âge de Pharaon à cette époque. Mais je vois d'abord l'âge de tous ces vieux qui sont autour de lui. Et un jeune homme de 30 ans. Je suis grand frère de Joseph à l'époque. Et il s'est dit devant Pharaon. Il faut maintenant que le roi m'écoute. Il vaudra mieux que le roi puisse chercher un homme.
Un homme.
Il change les calculs de Pharaon. Dans le palais royal, il fallait d'abord peut-être soumettre une offre. Mais il dit à Pharaon, non, laisse tomber ces histoires-là. Il a juste besoin de chercher un homme. Un homme qui soit rempli de sagesse. Capable de faire ci et ça. Et cet homme-là va faire à ce que, lorsque les gens seront dans la famine, Égypte sera dans l'abondance. Et quand Pharaon regardait, c'est pas possible. C'est pas possible. D'où vient-il? Et je m'imagine qu'à l'époque, Joseph n'était pas si gros. Quelqu'un qui a fait 2 ans dans la prison. 2 ans dans la prison. Il est fort probable que Joseph n'avait pas bonne mine. Mais à cause du contenu qui était en lui, le roi regarde en disant, où trouverai-je? Où trouverai-je un homme comme celui-ci? Parce que si je l'ai dans ma maison, il va ajouter de la valeur à l'équipe. Alléluia. Si je suis en train de parler à quelqu'un, que cela dise amen. Parce que je suis en train de déclarer que cela soit ton partage. Que le Seigneur te remplisse de la vie. Que Christ te remplisse de ta personne. Que le Saint-Esprit te saisisse de son poids. Alléluia. Troisième vérité. Par rapport toujours au contenu. C'est que souvent aussi l'usage ne dépend pas ne dépend pas du contenant. C'est toujours le contenu. Imaginez-vous, après avoir acheté une bouteille d'eau, la première des choses qu'on fait, c'est quoi? On boit de l'eau. Et le futur de cette bouteille, c'est quoi? C'est la jeter. Oui, parce qu'à Goma actuellement, on ne jette pas toujours. Hein. Oui, il y a aussi des gens qui... Amen.
Amen.
C'est-à-dire, c'est notre contenu qui fait à ce que Dieu puisse nous utiliser. C'est notre contenu qui fait que les hommes et le monde nous cherchent. Mais combien est-ce que nous passons plus de temps devant nos miroirs, nous regardant comment on est? Mais très peu de temps nous prenons pour regarder dans le miroir spirituel. Qu'est-ce que je suis en train de devenir à l'intérieur de
moi?
Parce que nous pensons qu'en étant belle, alors les gens vont te chercher. Dans l'histoire d'Esther, elle nous a défiés. Il y avait des jeunes filles qui passaient le temps à se mirer, à faire les make-up. Et cette histoire de make-up là, vraiment les mamans, vraiment. Cette histoire de make-up. À des moments, lorsqu'on fait les make-up à ma femme, je dis c'est toujours elle, c'est pas elle. Et surtout sur Facebook, si vous êtes dans les statues, oh mon Dieu. Des fois, les gens te saluent, bonjour pasteur, te disent c'est qui, je ne l'ai jamais vu.
Masque de beauté.
C'est plus tard que tu vas te rendre, hey, c'est la sœur de la chorale, mon Dieu. Make-up. On passe tout le temps à se regarder, à voir le make-up. Mais nous ne passons pas ce temps-là à regarder quel est le contenu, comment nous sommes en train de devenir à
l'être.
Et Esther a dit non, 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 vous allez faire le make-up. Moi, je vais m'occuper du contenu. Et le roi a montré qu'on consomme le contenu. Bien aimé, travaille à devenir meilleur. Travaille à devenir meilleur. C'est ce qui est important. Les gens qui te regardent, les mêmes gens, demain, ils vont te dire autre chose. Si tu passes tout ton temps juste à regarder à l'extérieur de toi-même, tu vas rater l'essentiel. Je vais terminer vite. Lorsque l'Esprit est en nous, il nous donne aussi une nouvelle couronne. Une nouvelle couronne. Dans le verset 40 de Genèse 41, la Bible dit Pharaon ôta son anneau. Je me dis, Pharaon avait combien d'anneaux? Parce que l'anneau était le symbole de l'autorité. Et certaines personnes disent même que le sceau du roi était sur son anneau. C'est-à-dire lorsqu'il gardait l'anneau, il avait l'autorité avec lui. Mais lorsqu'il a remarqué que parmi eux, il y avait quelqu'un qui avait un esprit supérieur, là-dedans lui, il ôta son anneau. Et les remit à qui? À Joseph. Il les revêtit aussi d'habits de fin lin. Il lui mit aussi le collier au cou. Mais ici, bien aimé, il y a quelques nuances que je voulais donner. La première des choses, c'est que dans la vie de Joseph, comme je l'ai dit, c'est que c'était un fils aimé par les pères. La vie de Joseph était une vie de couronnement. Il n'a pas commencé à être couronné ici. Déjà était chez son père. La Bible nous dit que parce que le père l'aimait, il lui a fait une tunique multicolore. La tunique multicolore dans des Samuel. Je crois à chapitre 13. Lorsqu'on nous parle de l'histoire de
Tamar,
on dit que Tamar portait une tunique multicolore. Et on explique en disant la tunique multicolore en Israël était portée par des vierges filles, mais aussi des filles vierges mais du palais royal. C'était un signe d'honneur. Mais cet habit, il a reçu parce que le père l'aimait. Parce que seulement le père l'aimait. Et tout ce que l'on reçoit parce que le père t'aime, ça suscite toujours des querelles. Ça suscite toujours de la jalousie. Ça pose toujours des problèmes. C'est pour cela que nous avons besoin d'une nouvelle couronne. Le deuxième couronnement, voyons, c'est Potiphar. Lorsque Potiphar l'a reçu et qu'il voulait l'honorer, il voulait l'élever, il lui a fait porter des habits, les habits qui devraient les distinguer des autres serviteurs. Mais cela aussi l'a rendu tellement beau, ce qui a fait ce que la femme de Potiphar cherche. Il y a certaines grâces que nous recevons et ces grâces deviennent une source de combat pour nous. Deviennent une source de bataille pour nous. Mais j'aime ce troisième couronnement. Deuxième couronnement, Joseph ne l'a pas cherché. Joseph n'est pas dans un contexte où il est aimé. Il vient de la prison, il n'est même pas bien habillé. Mais il était couronné par le Saint-Esprit, qui lorsque le roi l'a regardé en disant, lorsque Pharaon l'a regardé, il a dit, cet homme avec cette gloire sur lui, il ne peut pas être tel qu'il est. La Bible nous dit, il commence d'abord par ôter lui-même son anneau. Enlever, ôter son anneau, c'est un signe de reconnaissance de l'autorité de Joseph. En d'autres termes, spirituellement, il est en train de dire, je ne suis pas digne de porter ça. Bien qu'il a dit que c'est seulement le trône qui nous distingue, mais c'est qu'il ne savait pas qu'il avait déjà donné l'autorité. Le trône sans autorité ne sert à rien. C'est qu'il ne savait pas ce qu'il était en train de donner son autorité. Pendant que j'ai préparé ces messages, j'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, à cause de ton esprit saint qui est parmi nous, fais en sorte que les gens que nous voyons l'autre fois très élevés reconnaissent que la gloire que tu as déposée en nous nous fait mériter aussi une position très élevée. Que prophétiquement ils les déclarent et qu'ils agissent. Et là je parle de quelqu'un dans cette salle. Ça fait un temps tu as prié. Tu es dans un ministère. Il y a quelqu'un que tu as toujours vu comme l'icône devant toi. Laisse-moi te dire une chose. À cause de l'Esprit de Dieu qui est sur toi aujourd'hui, Dieu est en train de t'amener dans une autre phase. Dieu est en train de vouloir donner une autre dimension. Et tu seras surpris de voir certaines personnes ôter leur anneau et te faire porter. Ils ne le feront pas parce que tu as prié. Ils ne le feront pas parce que tu as demandé. Mais ils le feront poussés par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il te saisit, il veut t'amener dans une autre dimension. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Rabba Shakayama Santikinema. Ce matin, je voulais juste que nous puissions faire une prière. Demander au Saint-Esprit de nous saisir. Dis au Saint-Esprit, dès que tu m'as, ne me laisse plus. Je ne veux pas être comme Saül, qui a été saisi par l'Esprit. Mais à cet moment, il a été lâché à cause de son
orgueil.
Mais que tu me saisis, Père. Comme Joseph,
comme Youssouf,
je vais mourir sur le trône. Je vais mourir sur le trône. Je vais garder ma considération sur le trône. Comme Joseph,
comme Youssouf,
je vais être honoré même par les gens qui ne voulaient pas m'honorer. Même dans une terre étrangère que l'Esprit m'impose.
Alléluia.
Oh Ram. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Yanda la mashakala ba sete. Royanda la ba 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 shakala ba ba sete. Oh, hallelujah. Merci Jésus. Hallelujah. Merci Jésus. Emae, fungole langalola. Oh, emae, sopele langakembo. Ema, 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 oui, Seigneur, ouvre ton trône, ouvre ton ciel, Père éternel, et envoie-nous ton esprit, Père. Oh, ema, merci Jésus. Merci pour ta présence en nous. Oh, Emma, Emma, Emma. Alléluia. Emma, Emma,
Emma.
Seigneur, telle est notre prière ce matin. Que ce jour de Pentecôte soit un jour pour nous. Je prie pour quelqu'un, Père éternel, qui a encore besoin d'être saisi par ton esprit. Qui a encore besoin du baptême par le Saint-Esprit. Que ce jour ne passe pas pour lui, Père. Permets à ce que ton esprit, Saint-Esprit de vie, l'esprit qui était dans Joseph, nous distingue partout, 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 où nous passons et nous allons. Au nom de Jésus. Amen.